L'enregistrement commence.
Je remercie Madame Blanc de m'avoir proposé de vous parler ce soir d'une présentation que j'ai faite à la Société de psychanalyse freudienne à l'issue d'un groupe de lecture du texte hébraïque des premiers livres de la Genèse. Le groupe était composé de psychanalystes et de familiers du texte biblique. Quatre participants possédaient des rudiments d'hébreu biblique et de la tradition rabbinique. L'intitulé de ce groupe était « Le féminin dans le texte biblique ». J'ai donc participé en tant qu'affiliée à la Société de psychanalyse freudienne et du fait de mon intérêt, sans doute depuis toujours, pour cette histoire du féminin et ce qui donnait là une approche un peu différente de celle que l'on trouve dans d'autres registres. La notion de féminin est un sujet de controverse, chacun pensant savoir d'évidence ce qu'il en est. Pour les psychanalystes actuels, il est généralement admis que le féminin, c'est l'autre. Depuis Freud, qui a buté sur ce continent noir, quand je parle de continent noir, c'est ainsi qu'en parlait Freud, c'était tout ce qui concernait cet inconnu féminin, puisque lui-même, réfléchissant par rapport à lui-même, avait cette difficulté à imaginer ce qu'il en était de ce continent noir féminin. Le féminin est une énigme. Dans sa conférence intitulée « La féminité », il tente de saisir le féminin à partir du biologique. Concluant que l'anatomie ne peut saisir ce qui fait la masculinité ou la féminité, il se tourne vers la psychologie et constate que la psychologie ne résoudra pas non plus l'énigme de la féminité. Il expose ensuite ce qu'il a observé dans son travail analytique. Cependant, la question reste ouverte. Et si Freud écrit que, de tout temps, les hommes se sont creusés la tête sur l'énigme de la féminité, pourquoi ne pas aller chercher dans les textes fondateurs de notre culture? Pour notre culture occidentale, ce sont les mythes grecs et le texte biblique. C'est celui-ci qui nous occupe aujourd'hui. Lorsque je vais parler de références bibliques, je vais emprunter au texte de mon collègue Jean-Pierre Barraud qui avait introduit le colloque. Et en ce qui concerne le travail sur la lettre E, j'emprunterai au texte de ma collègue Edith Béguin. Donc, à propos de la Bible, ce texte est d'abord oral, puis écrit dans des époques diverses, au cours de 17 siècles, écrit sans voyelles, sans ponctuation, et avant le 6e siècle, sans séparation de mots, de phrases, de chapitres, un rébus. Pour lire ce texte, il est nécessaire d'agir le souffle en vocalisant les voyelles. Le choix des voyelles entraîne des significations fort différentes. Il existe de multiples traductions de la Bible, chacune ampute le texte de sa fabuleuse polysémie. Lire ces livres implique de se demander comment le peuple, dont ce texte est issu, les lit dans sa tradition depuis plus de 25 siècles. C'est le travail des Masorètes du 5e au 11e siècle qui a réalisé le texte hébraïque que nous avons entre les mains. Ces précisions de lecture sont liées à une mémoire narrative issue de la tradition, engendrant une mémoire gestuelle, corporelle, des rites avec leurs règles de lecture et d'interprétation. Il ne s'agit que d'indications d'interprétation, nous laissant libres devant le rébus et sa polysémie. Dans cette lecture, il ne s'agit pas de chercher la vérité, puisqu'il n'y a pas d'interprétation univoque. La question à poser n'est pas « qu'est-ce que ça veut dire ?», mais « qu'est-ce que ça peut dire ?». Nous avons donc avancé pas à pas dans le texte, pour en dégager quelques-unes des multiples ouvertures. Je vais demander l'indulgence des personnes qui parlent hébreu parce que je vais vous lire les premiers versets de la Genèse et je ne suis pas du tout hébraïsante. Donc, merci de votre indulgence. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Ve'haaretz hayeta tohu bohu va've'osek al pene teram ve'ruwa Elohim mera'efet pene'al hamam. Va'yomer Elohim yehi or va'yehi or. Va'yar Elohim et haor tov ki va'yar del Elohim ben haor u ben ha'osek. Vaïra Elohim laor iom velaosher aha laiela. Vaïei ereb vaïei boker iom ehad. Si je vous ai lu cela, c'est parce qu'il me semble que à la lecture, à la vocalisation, on entend quelque chose d'un mouvement, d'une scansion, on a une répétition de certains mots qui sont répétés, mais pas de façon exactement identique. Et je trouve que cela donne une idée du mouvement de la construction. Vous en pensez ce que vous voulez. Ceci pour dire que justement, la création du monde n'est pas une construction-fabrication, mais un mouvement. Ce qu'il faut pour construire le monde à chaque instant commencement. Donc, au commencement, dans les commencements, Elohim créa les ciels et la terre. Et la terre était ohu-bohu et ténèbres sur des faces d'abîme, et souffle d'Elohim planant sur les faces des eaux. Dans cet indifférencié du ohu-bohu, le souffle introduit un espace. Elohim nomme et crée la lumière, qui permet de nommer et de séparer lumière et ténèbres, jour et nuit, ce qui sépare soir et matin. Plus tard, Elohim a le projet de créer un Adam dans son ombre. Dans son ombre plutôt qu'à son image, comme on le dit souvent. Masculin et féminin. Il a le projet, puis il le fait. C'est le septième jour. Dans le temps sans fin, les jours ont un début et une fin, ils sont comptés. Le septième jour est celui de l'arrêt du fer pour qu'il devienne ouvrage. Le septième jour est le Shabbat, il sépare dans le temps. On l'accueille comme la fiancée. C'est le temps de la relation, temps d'accueillir la parole, temps du féminin. Car le fer est du registre masculin, l'ouverture, celui du féminin. Au verset 7, « Et tétragramme façonna l'Adam et souffla dans ses narines, ce qui le fait devenir vivant, être parlant. » Le septième jour, tétragramme consacre son ouvrage, il le sanctifie, c'est-à-dire qu'il le sépare. En hébreu, le mot « sanctifié », « kodesh », signifie « mis à part pour tétragramme », séparer, rendre saint. Il y avait de l'inanimé, il insuffle la vie. Il faut arrêter de faire pour penser, pour que la vie advienne. Au verset 8, tétragramme Elohim plante en Éden un jardin. Auparavant, il existait un champ, mais sans homme pour le cultiver. Le champ n'est pas limité. Le mot gan, jardin, désigne aussi la protection, la sécurité et le plaisir. Ce sont les conditions pour que l'enfance soit enfance. Au verset 9, il fait germer tout arbre, c'est indifférencié, mais il est précisé ensuite, au milieu du jardin, l'arbre de la vie, celui dont il faut manger les fruits pour vivre, c'est la Torah, et l'arbre de la connaissance du bien au mal. Du bien au mal, cela sous-entend le tout. Deux arbres précis sont distingués de l'ensemble, mais on ne sait pas où est situé l'arbre de la connaissance. Au verset 10, un fleuve sort de l'Éden pour abreuver le jardin. De là, il se sépare en quatre. L'origine n'est pas visible, ce sont les quatre fleuves séparés qui le sont. Au verset 15, Elohim prend la dent et le pose au jardin d'Éden pour le garder. Le texte hébraïque donne à lire Le Abeda pour servir elle et Le Shainra pour garder elle. Pourquoi le suffixe accolé aux deux verbes est-il au féminin alors que le jardin est masculin? Cette anomalie grammaticale est souvent commentée par les rabbins. Raphaël Drahi, dans Abraham ou la recréation du monde, l'élucide ainsi. Il s'agit, dit-il, de cultiver et garder la lettre He, tel un jardin. La lettre He est la lettre de l'ailleurs. Inscrivant alors le féminin dans l'inattendu de cette trouvaille, dans son effet d'une ouverture interprétative qui incite le lecteur à laisser résonner la polyvalence de la lettre E. La lettre E placée en fin de mot est la marque du féminin. Dans sa graphie, c'est une lettre ouverte, lettre qui se prononce dans un souffle. Placée en début de mot, elle introduit une interrogation. Au verset 16, Elohim ordonne à Adam de manger de tout arbre du jardin. Manger, c'est unifier. Le mot manger, achol, se décompose en chol, le tout, et aleph, un. Le mot Adam se décompose en dam, sans, et aleph, un. Sans le un, c'est du sang répandu, puisqu'il n'est pas unifié. Il y a obligation de manger de tous les plaisirs de la vie. S'agirait-il d'une tentation du un? Mais au verset 17, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car du jour où tu mangeras, tu mourras. Manger, c'est faire du un, unifier. Connaître, c'est aller vers l'autre. La connaissance est celle intime du corps. C'est l'arbre de la relation. On ne mange pas de la relation. La connaissance qui va du bien au mal, celle du tout, est impossible. C'est la première fois que ce que l'on fait a une conséquence. C'est une limitation à la jouissance. C'est à la suite de cet interdit du tout qu'Elohim pense qu'il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Au verset 18, donc le suivant, il dit « Je ferai une aide vis-à-vis de lui. » Vis-à-vis, c'est « neged ». Nagad, donc en changeant les voyelles, est le verbe qui signifie « raconter, expliquer ». La parole est inscrite dans le vis-à-vis. On évite le tout, le totalitaire, en créant un vis-à-vis, en suscitant une parole. C'est le visage de l'autre. Au verset 21, Elohim prend une de ses côtes à Adam et ferme la chair à sa place. Il le fait pendant son sommeil, Adam n'en sait rien. La chair, c'est aussi la vulnérabilité. Adam a donc perdu quelque chose, il n'est plus un tout. Cette côte amène aussi l'essence de à côté, rivage, bordure, littoral. Si je poursuis les associations, je pense au Nebenmensch de Freud. Nebenmensch est le fait que l'être humain ne peut advenir comme humain que situé dans les parages d'un être humain placé à côté. C'est dans l'esquisse de Freud. Delphine Horviller, femme rabbin, propose un côté, c'est-à-dire une césure d'un être originel androgyne, dorénavant coupé en deux. Elle est un autre sujet et non un objet sorti de l'organisme premier à deux genres. Au verset 23, Adam dit ses premiers mots. C'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Il ne reconnaît pas encore la femme comme autre. Puis il la nomme femme Isha. Et la nommant s'en sépare et se découvre Ish. Ce qui différencie Ish de Isha dans l'écriture, ce sont le yod, lettre masculine, et le he, lettre du féminin. En Genèse 3, lorsque le serpent parle, il ne parle que d'Elohim. Il scinde Adonai Elohim. Il garde la tribu rigueur. Il enlève la tribu amour. Elohim seul insiste sur ordonner, engendrant terroriser. Le double nom limite la résonance fantasmatique, équilibre les connotations en présence. Le serpent introduit une confusion. Il vient du champ, nom délimité, et nom du jardin, limité. Le champ n'est pas cultivé, c'est le terrain vague, la jachère pulsionnelle. Dans la Bible, le jardin nécessite le travail de l'homme. Seul le jardin d'Éden n'a pas nécessité le travail de l'homme. Mais si tout le monde en rêve, personne n'en veut. Le serpent transforme les paroles de tétragramme Elohim. Il dit « Vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. » Alors que nous avons vu que ce qui a été dit était « De tout arbre du jardin, tu mangeras, mais... » Isha est seule. On ne sait pas ce qui lui a été dit. Isha répond « Nous mangerons du fruit de l'arbre du jardin, sauf du fruit de l'arbre du milieu du jardin. » Or le fruit n'est pas l'arbre, c'est la production de l'arbre. Et l'arbre du milieu du jardin, est-ce l'arbre de vie ou l'arbre de la connaissance? Ce n'est pas clair. L'absence de parole entretient la confusion. Le serpent, dans son dire, a forclos la différence entre les arbres. Il a quelque chose de totalitaire. Il fascine la femme en lui disant qu'elle pourrait tout connaître, qu'il pourrait être comme des Elohim, c'est-à-dire qu'il connaîtrait l'origine. Faute d'une transmission claire de la parole de Adonai Elohim à la femme, la confusion s'installe, les fantasmes vont bon train. Plus haut, j'ai parlé du Demen Mesh. Il est dit ici qu'Isha est seule. Elle explore son environnement. Explorer, c'est ce que fait le nourrisson qui ne cesse d'explorer son environnement avec les moyens dont il dispose. C'est aussi ce que fait la mère en proposant des réponses aux expressions du nourrisson. Monique Schneider, psychanalyste, philosophe, écrit « Le féminin, c'est l'autre, mais en même temps qui permet de se connaître soi, peu à peu, dans la différence, dans l'inadéquation entre le malaise et la réponse. À tout malaise, la tendance est de demander une réponse concrète. Mais on s'aperçoit bien vite que cette réponse rate sa cible. » À ce sujet, Monique Schneider ajoute « La reconnaissance de la souffrance par cet autre féminin fait attribuer l'origine de la souffrance au féminin, ce qui conduit hommes et femmes à tenter de fuir le féminin. » Isha mange du fruit de l'arbre et en donne à son homme, qui en mange avec elle. Il se voit nu. Il voit donc la différence. Il couse des feuilles. Veulent-ils cacher la différence? Ils entendent Adonai Elohim. Ils se cachent au milieu de l'arbre du jardin. En clair, ils ne savent plus où se mettre. Peut-on dire qu'ils ont fait une bêtise? En un sens, oui, car ils n'ont pas respecté l'interdit. Mais d'autre part, cette bêtise est ce qui permet de voir la différence des sexes. Ils ne l'ont pas faite en conscience, ne se sentent pas responsables. Pas prêt au face-à-face. Or, tétragramme Elohim intervient et crie à l'homme « Où es-tu ?» et à la femme « Qu'est-ce que tu as fait ?» Ce n'est pas Elohim seul, c'est tétragramme Elohim. Il leur signifie qu'ils sont sujets de leurs actes et leur indique que les actes ont des conséquences. Ces conséquences sont des obligations à la responsabilité. Plus loin, Adonai Elohim dit à la femme qu'elle enfantera des fils dans la douleur et dans le renoncement. C'est-à-dire qu'une séparation est nécessaire pour que les enfants soient des fils et non des enfants prolongements. C'est la parole qui permet la séparation, douleur d'accoucher d'une parole qui perfore le fantasme. Fantasme de toute puissance, entre autres. Les fils sont des autres plus que les filles. Françoise Héritier fait remarquer que ce que les hommes envient surtout aux femmes, c'est le pouvoir de faire des fils plus que celui de faire des filles, car elles font alors autre chose que reproduire du même. Être enfanté, sortir du jardin d'Éden, travailler la terre pour que les fruits poussent, n'est-ce pas sortir de l'enfance et faire que la vie se poursuive? Pour que les engendrements, Toledot, aient lieu, il faut qu'un homme nommé rencontre une femme nommée et enfante des fils nommés. Adam a peur. Il ne fait plus face. Le serpent est maudit. Il y aura de la haine entre le serpent et sa descendance, et entre le serpent et la femme et sa descendance. La haine est liée à l'objet perdu, lorsque l'on impute la responsabilité de la perte à l'autre, ou à l'autre en soi, ainsi dans la mélancolie. La haine correspond à la déception de celui ou celle qui avait imaginé tout puissant l'objet de son amour. Elle s'adresse à l'autre en ce qu'il met en évidence la faille, l'incomplétude, ou à soi-même, se découvrant ne pas être tout-puissant. C'est un refus de la castration. Il y a une jouissance dans la haine. Elle s'exprime dans le corps à corps mortel. Ne s'adresse pas à l'autre dans l'altérité, mais à l'autre collé. Le serpent mange la poussière, retourne à ce qui n'est pas lié. Il faut la salive pour lier la poussière, la parole pour faire le vivant. En Genèse 11, c'est la construction de Babel. Babel, c'est le brouillage. Il y a eu le déluge. Les hommes ont eu peur. Peut-être pour se rassurer, ils se rassemblent et veulent ne faire plus qu'un. Un seul lieu, une seule lèvre, c'est-à-dire façon d'utiliser la langue. Ils s'établissent. Le mouvement est arrêté. Ils disent « Briquetons des briques, brûlons ce qui peut être brûlé. » Ils utilisent la brique au lieu de la pierre, le bitume au lieu de la glaise, c'est-à-dire des matériaux artificiels. C'est une idéologie de production de l'identique. Ce n'est pas de la construction humaine. Ils construisent une ville et une tour dont le fait atteindra les cieux, c'est-à-dire l'origine. Ils se donnent un seul nom pour ne plus être séparés. Adonai descend et voit des humains qui pensent que rien ne leur est impossible, mais qui sont soudés dans une indistinction immobile et qui veulent se donner un nom. Il les disperse. Cette fois, c'est Adonai, qualité supérieure à tous les attributs, part féminine. Seul Adonai est celui qu'on ne nomme pas. On ne se nomme pas soi-même, on est nommé. Se nommer, faire un, c'est le tout phallique, le refus du féminin, du différent, de l'altérité. La sortie de Babel dure. Abraham traverse des épreuves. En Genèse 17, Adonai se fait voir à Abraham une nouvelle fois et lui promet un fils. Pour cela, il introduit le « hé » dans le nom d'Abraham. Abraham, père haut élevé, devient Abraham, père d'une multitude. Le signe du pacte est la circoncision. Puis, il introduit le même « hé », lettre du féminin, dans le nom de Sarai, pour en faire Sarah, princesse, et non ma princesse. Le hé introduit une coupure dans le nom, sort de la possession, permet les générations. Le hé, lettre ouverte, symbolise l'ouverture à l'autre, fait sortir du totalitaire. Au-delà du bouleversement produit dans le destin d'Abraham et Sarah et par l'introduction dans leur nom de la lettre V, c'est, au long de leur cheminement vers l'Égypte, puis jusqu'à la plaine de Mambré, la marque d'un cheminement intérieur qui permettra la levée de la stérilité de Sarah. C'est l'introduction du souffle, de l'espace, qui permet la descendance. Ces premiers livres de la Genèse m'évoquent le développement de l'être humain. Le nourrisson qui vient au monde et semble être un être complet ne peut survivre sans ce vis-à-vis très proche dispensateur de soins, mais aussi de frustration liée à l'inadéquation dont j'ai parlé plus haut, entre le malaise et la réponse. Chez l'infance, la pulsion vers le tout, la pulsion de savoir, est nécessaire à la vie. Explorer, faire l'épreuve de ce qui n'est pas soi, vouloir tout connaître, même sans se l'être formulé, cela ne décrit-il pas le nourrisson? Mais les limites adviennent, souvent sous forme de malaise, de douleur. On sort du jardin où tout est déjà là pour se confronter au monde tel qu'il est. Les rappels alors d'Adonai Elohim sont dits dans l'ambivalence. Il n'y a que le serpent qui parle d'Elohim seul, celui qui ordonne et terrorise. Les autres interventions viennent d'un Adonai Elohim qui, à la fois, édicte les règles et maintient la tendresse à l'égard des humains. Il faut la tendresse pour que l'interdit soit acceptable et intégrable par le petit humain. Mais dans ce texte, l'interdit est toujours une limite au tout, jamais un empêchement à avancer, bien au contraire. Dans notre lecture de ces premiers livres, nous avons noté que chaque fois qu'Adonai Elohim intervient, c'est pour corriger une erreur, non pour punir, c'est pour faire entendre que ce n'est pas le bon chemin, qu'il faut en trouver un autre. J'aimais donc l'idée que si le désir du tout est nécessaire à la vie, il importe de pouvoir continuer sur la voie du désir malgré les épreuves rencontrées dans cette quête. Le Graal n'est pas fait pour être trouvé, mais pour susciter et entretenir la quête. Les épreuves ne sont pas une punition, mais le chemin pour sortir de l'erreur, le signe qu'ils font continuer l'effort de vivre. Bien sûr, à l'issue de ce travail, je n'ai pas de réponse précise à ma question « qu'est-ce que le féminin ?» Mais on peut dire que ce n'est pas dans le visible, dans l'objectif. Ce serait du côté de l'ouverture, de l'accueil, du souffle de la parole. Alors pourquoi l'appeler le féminin? Peut-être simplement parce qu'il faut bien nommer les choses pour les faire exister dans l'ordre de l'échange humain. Et que le corps féminin est porteur de cet espace potentiel d'accueil d'un autre. Sans doute les hommes envient-ils parfois ce pouvoir magique qu'ont les femmes. Mais l'histoire de Sarah nous dit bien que la femme n'a pas plus que l'homme la maîtrise de ce pouvoir et que c'est d'abord dans l'inconscient qu'une place est à faire à un autre. En effet, Sarah enfantera après que la lettre E, introduite dans son nom, lui a fait quitter une imaginaire complétude. Au fil de ces textes, nous avons vu l'importance de la nomination qui sépare grâce au souffle de la parole, souffle qui donne la vie et l'espace, nomination vocalisée qui passe par le corps, nomination sans laquelle la construction n'est que fabrication et non déroulement de la vie humaine au fil des générations. Dans Dernière Nouvelle du Sud, Luis Sepulveda écrit « Les gens du Sud du monde modulent les mots en ayant conscience de leur caractère fondateur. C'est ainsi qu'ils donnent vie à ce qu'ils nomment, qu'ils peuplent la dureté de la steppe. » Merci de votre attention.
Thank you. prends mon temps, cher ami, parce que vraiment, vous nous avez donné une leçon qui n'est pas finie, qui n'est qu'un début de tout ce que l'on pourrait apprendre, comprendre, transformer en nous dans chaque chapitre. Parce que chaque chapitre est une vraie leçon. Moi, je voyais bien un grand tableau, là, puis que vous nous repreniez chaque chapitre et que vous nous réexpliquiez tout. Parce que c'est dense, c'est fantastique. Moi, je vais vous dire, j'avais eu la chance qui est exceptionnelle. Jamais ça m'arrive d'avoir écouté déjà ce que le docteur Trelez nous a donné ce soir comme cadeau. J'avais déjà trouvé formidable. Mais ce soir, j'ai encore écouté autrement. Je ne sais pas que dire de plus. J'espère que plein de questions vont être posées, ou en tout cas, on va pouvoir échanger. Mais c'est vraiment formidable. C'est un énorme travail. Et je pense qu'on n'a pas cette résonance psychanalytique unique habituellement sur les textes bibliques, où il y a toujours la connotation beaucoup plus religieuse, spirituelle, dans le sens religieux. Et là, ce travail, ben, c'était notre souhait en vous faisant venir. Et
je précise, comme je l'ai dit au début, que c'est le travail d'un groupe, que j'ai fait une partie, de la présentation, mais tout ce travail est un travail de groupe, bien évidemment, ça n'est pas possible de faire ce travail seul.
Et ça n'enlève en rien le fait de nous le donner, de nous l'offrir, de nous le faire connaître. Oui, je pense que c'est un gros travail. Parce que j'ai le sentiment que tous les mots ont une importance. Que ce soit les mots, bien sûr, en hébreu, le texte lui-même, déjà, que Dieu sait, on a pu élaborer, les rabbins en parlent, et c'est sans fin. Je pense que c'est sans fin. Ce que j'ai ressenti, c'est ce mystère du féminin qui, pour moi, et exactement le mystère de notre inconscient. Et le grand rabbin Gage, avec qui certains de nous ont beaucoup travaillé, nous parlait de l'inconscient, de l'inconscient, du plus profond de notre être. Et effectivement, s'il n'y a pas le « hé », cette ouverture, s'il n'y a pas ce féminin en chacun de nous, parce qu'on n'est pas dans l'idée du sexe, on est vraiment dans l'idée de quelque chose qui se passe en chacun de soi, eh bien, on ne peut pas aller à cette rencontre de nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes. Et pour ça, les textes sont fantastiques et m'émerveillent toujours. Mais ce que je trouve aussi fantastique, c'est que vous qui n'êtes pas, vous ne vous présentez pas, on en a parlé toutes les deux, comme quelqu'un de « religieux », entre guillemets, vous diriez personne laïque, n'est-ce pas, mais qui étudiez les textes pour en comprendre le sens et le sens de notre vie. Et je trouve qu'avec la psychanalyse, ça va merveilleusement bien. Merci, merci vraiment. Alors, à chacun de vous tous, et bien Jean-Albert.
C'est un rituel.
C'est un super bon rituel.
Pour démarrer.
Merci à la fois pour ce condensé, toutes ces précisions. Je pensais un petit peu hors du Jardin d'Éden à ces idées de Carl Gustav Jung sur l'enjeu pour tout individu de réconcilier le masculin et le féminin. Alors, dans la Genèse, il me semble qu'il y a aussi cet enjeu de réconciliation entre le masculin et le féminin, à la fois de séparation, de tension, de conflit, mais aussi d'harmonie. Alors évidemment, Jung allait plus loin, vous connaissez ses rapports difficiles avec Freud, il parlait de l'alchimie. Et une de, la, comment dirais-je, la substance même de cette alchimie. Il parlait des épousailles, retrouver le roi et la reine, comme dans les contes. On est à la fois un roi et une reine. Et comment, comment redevenir, comment sublimer et être particulièrement productif et créateur dans cette réconciliation avec nous-mêmes, entre conscience à valeur peut-être masculine et inconscience à valeur féminine.
Nous nous sommes cantonnés au premier livre de la Genèse, ce dont je vous ai parlé. Je n'y ai pas trouvé d'opposition entre le féminin et le masculin. Il s'agit d'une séparation qui crée un vis-à-vis. Le vis-à-vis n'étant pas quelque chose de contraire, et c'est quelque chose qui permet de percevoir l'altérité, et le féminin étant peut-être une façon de percevoir l'altérité en soi, première étape pour être à l'écoute de l'altérité de l'autre. Mais dans ces premiers livres, il n'y a pas d'opposition masculin-féminin.
Il n'y a pas d'opposition, mais est-ce que on peut avoir une idée de la raison pour laquelle il a été prendre un morceau, une côte d'Adam pour créer la femme, si ce n'est pour créer un manque qui va susciter après la recherche de la partie de nous qui est incomplète.
Ah, mais vous me posez une question à laquelle je ne saurais répondre. Comment voulez-vous que je vous dise pourquoi Tétragramme a pensé à faire ça ?
Bonjour, je vous remercie simplement d'avoir parlé du littoral par rapport à la côte. Je trouve que c'est très beau, puis ça ouvre sur l'inconnu et le mystérieux féminin, quoi. Merci beaucoup.
Enfin, pour poursuivre par rapport à votre question, il était quand même dit que Adonai Elohim pensait qu'il n'était pas bon qu'Adam soit seul. Et c'est à partir de cette idée qui est écrite là, qu'il n'était pas bon qu'il soit seul, qu'il pense à créer un vis-à-vis. Mais je ne peux quand même pas répondre à sa place.
Si je peux me permettre, est-ce que le fait qu'Adonai lui-même soit peut-être, dit-on, il ou elle, vous vous souvenez, on avait fait venir le rabbin Garay sur la demande « Dieu est-il il ou elle ?» Il n'y a pas de réponse à cela. Mais dans son nom, dans le tétragramme, il y a deux lettres féminines et deux lettres masculines. Donc lui-même créant l'homme ou à sa ressemblance, ou...
C'est dit de façon assez claire. Dans, à sa ressemblance, masculin et féminin.
Il les créa.
Et c'est... sa ressemblance, c'est masculin et féminin.
D'où, créant un seul être, peut-être androgyne, effectivement, il y avait nécessité d'un vis-à-vis. Et en même temps, vous l'avez dit, il ne peut pas y avoir de vie sans vis-à-vis. On ne peut pas vivre nous-mêmes sans un face-à-face. Je dirais, c'est très, très... Lévinas a énormément travaillé là-dessus, beaucoup parlé de cela, car on ne peut pas exister sans l'autre. Et peut-être qu'Adam n'aurait certainement pas vécu, et nous ne serions pas là.
Martin Buber aussi.
Pardon ?
Martin Buber.
Oui, Martin Buber, entre le je et tu, beaucoup d'auteurs, effectivement, ont parlé de cela. Mais là, c'est moins dans le féminin et masculin que, effectivement, la question posée. Souvent, dans la Bible, féminin et infertilité sont liés. De nombreuses femmes sont infertiles. Non pas stériles, mais infertiles. Or, vous avez parlé du cheminement intérieur qui permet la levée de la stérilité de Sarah. Mm-hmm. Est-ce que vous pourriez développer un peu plus, s'il vous plaît? Parce que, est-ce que ce cheminement intérieur se retrouve aussi chez les autres femmes dites stériles de la Bible?
Alors, je n'ai pas étudié la totalité de la Bible et je ne pourrais pas vous dire pour toutes les autres femmes, mais je pense que c'est une constante dans la Bible et ailleurs qui fait qu'il est nécessaire de sentir un espace pour l'autre, pour qu'un autre puisse advenir. Il peut arriver que ça provoque une stérilité ou une infertilité, il peut arriver d'autres choses, je ne sais pas. Mais ça fait partie des choses qui ont une place dans la fertilité.
L'accueil de l'autre.
Mmh. C'est-à-dire ne pas se sentir un être complet.
C'est ce que vous aviez dit.
Il faut accepter son propre manque.
Est-ce que ça veut dire que le féminin pourrait être dans ce manque, justement, être là pour ce manque, puisqu'il y a capacité de recevoir, le féminin reçoit, il y a cette ouverture, hein, d'ailleurs c'est le mot féminin en hébreu qui est aussi ouverture, et la femme stérile n'est pas ouverte puisqu'elle ne peut pas, elle ne peut pas recevoir. Pas enfantée, donc elle ne reçoit pas cela. Est-ce que cela joue dans ce sens? Et à partir de l'instant où Sarah n'a plus été la princesse de son père, elle était, c'était un enfermement, n'est-ce pas? Elle ne pouvait sans doute pas accueillir son mari psychologiquement.
Oui, mais on peut dire ça du féminin chez la femme, mais aussi du féminin chez l'homme.
Oui.
Parce que le féminin et le masculin existent quand même, bien sûr, dans des proportions variables, mais chez l'homme également. Alors, on ne peut pas le réduire à cette histoire de fertilité, mais on peut dire que cet accueil de l'autre fait partie des conditions de la fertilité. Mais bon, on ne peut pas réduire ça, ce serait très schématique et faux, forcément, tout ce qui est schématique est faux.
Ou limité en tout cas, extrêmement limité.
En ce qui concerne l'humain, je veux dire.
Oui. On peut dire que c'est grâce au féminin qu'il y a eu transgression, parce que c'est Charles et Hava qui a transgressé, alors que Adam est resté très en retrait. Il ne s'est pas opposé non plus à la transgression, il n'a rien dit. Et si Hava n'avait pas transgressé, ils seraient restés l'un et l'autre dans cette totalité qui était le Gan Eden. Et il n'aurait pas pu en être expulsé pour créer l'humanité, en fait. Mais la femme, c'est... Enfin, le féminin, c'est peut-être la transgression, et l'homme, c'est plutôt la loi, l'obéissance à la loi, à l'injonction.
Là, dans le cas précis, la transgression, elle est faite en toute méconnaissance, puisqu'elle ne sait pas, en fait, que ça ne sait pas clairement ce qui a été dit. Ça n'est pas clair. Hein,
non, elle ne sait pas, mais elle a envie d'en savoir plus.
Voilà, donc il y a un désir.
Il y a un désir, voilà.
Mais la transgression est quand même faite en toute méconnaissance du fait du désir de savoir.
Voilà.
Je voulais ajouter qu'elle a accusé le serpent. D'avoir conseillé de manger du fruit de la connaissance. Donc c'est une façon de se décharger de la faute.
Alors si on part dans des jugements, je pense que on peut effectivement prendre des positions comme celle-là, mais je pense que la question pour moi n'est pas celle-là. C'est, elle a une proposition, une suggestion, et elle se dit pourquoi pas. Est-ce qu'il faut parler d'accusation et d'entrer dans un système de jugement, ou est-ce qu'il faut parler d'exploration de l'inconnu ? Enfin, c'est une autre façon de voir.
Par contre, très vite, comme dit rappelle Jean-Marc, nous savons tous, Adam, après, a jugé quelque part et a dit, mais c'est sa faute, c'est elle qui m'a suggéré, qui m'a...
C'est la femme
que tu m'as donnée qui m'a dit de...
Ils diront Dieu responsable.
Oui, mais ce n'est même pas un jugement, ça. C'est une façon enfantine de se défausser.
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait.
Je pense que le docteur Rollez a déjà répondu à ça. C'est le mot jugement qui me choque, parce que elle nous a bien dit que c'était Adonai Elohim, donc la loi, mais il n'y a pas de jugement. Il les met simplement en face de leurs actes en leur disant tout acte entraîne des conséquences, et il leur explique. Donc ce n'est pas nous qui allons juger là où quelqu'un de plus grand que nous n'a pas porté de jugement.
Et souvent, en parlant d'altérité, on peut aussi parler de responsabilité. Parce que là, il y a effectivement la responsabilité, mais sans, on n'est pas dans le jugement. Et en tout cas, Adonai, Elohim n'est pas dans le jugement. Mais peut-être qu'il met déjà le doigt sur l'idée de la responsabilité. Et ça, c'est quelque chose qui est, je pense, que peut-être développer cela aussi pour nous, ce sens de la responsabilité. À la fois dans l'idée de la liberté, il a proposé une grande liberté dans ce jardin d'Éden, sauf, et ça ne se fait pas. Donc notion de responsabilité de l'acte qui n'a pas été fait correctement. Il a promis pourtant une grande punition, tu en mourras. Et finalement, il n'y a pas eu cette mort dont nous pensons la mort. Cessation de tout, il y a eu transformation, ce qui peut être aussi une sorte de mort, à autre chose. Donc, le sens de la responsabilité. Est-ce que, puisqu'on est quand même au niveau du féminin et de l'altérité, que nous diriez-vous de plus ?
Mais dans ce texte, on ne voit... Adam n'a pas transmis l'interdit de façon... On n'a pas les mots, on n'a aucun mot sur ce qui a été dit. Or, Adonai Elohim a parlé à Adam. Ève, on ne sait pas ce qu'elle a entendu. Et elle a peut-être entendu quelque chose de travers, on ne sait pas. Et donc, on a l'impression qu'il s'agit de choses où la parole n'a pas encore sa place. Et la parole est justement ce qui engage et ce qui amène aussi à la responsabilité.
Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup parce que je trouve que vous avez été exemplaire. Je vais dire un mot qui m'a interpellé dès le début, c'est le mot respect. Respect parce que je pense à un ami qui est présent là, un ami juif, et il y a un mot qui n'aime pas entendre. Et ce mot, là, vous ne l'avez jamais prononcé. Vous avez toujours, donc je ne vais pas le prononcer, moi, mais vous avez toujours utilisé tétragramme. Et pour lui, c'est extrêmement important, notamment pour nos amis juifs. Et c'est pas... Alors, ici, encore ça va, mais il y a beaucoup d'endroits où c'est pas très souvent respecté. C'est un manque de respect vis-à-vis de nos amis juifs. Et puis, dès le départ... Vous avez souligné l'importance à ne pas s'en tenir à une interprétation univoque. Donc ça aussi, c'est un respect vis-à-vis de nous tous. On parle des 70 visages, des 70 interprétations, ou des 600 000 pour les juifs au Sinaï, au moment de la révélation. Chacun a sa propre résonance de ce qu'il entend. Et vous nous l'avez dit. Vous avez dit, d'entrée, vous avez dit, non pas qu'est-ce que ça veut dire, c'est-à-dire qui fige, qui sclérose. Vous avez dit, qu'est-ce que ça peut dire, avec toutes les potentialités. C'est-à-dire que celui qui comprend d'une manière, il a le droit de comprendre de cette manière-là. Et il n'a qu'une parcelle. L'autre, ça suppose qu'ils retiennent que l'autre peut comprendre tout à fait différemment. Et ça, c'est extrêmement important. Pour moi, c'est une marque de respect. C'est ce que nous partageons ensemble. Et on retrouve, en fait, ce que vous avez souligné, cette mise en garde régulière de Marc-Alain Wachnin, qui dit, par exemple, « Le texte doit être interprété de telle sorte que la parole contenue dans le texte, parole qui est unique, soit comprise de manière plurielle. Le texte est unique. La Torah écrite est unique, mais l'interprétation, la Torah orale, est toujours multiple et doit constamment faire l'objet du ridouche, du renouvellement. » Et Marc-Alain Wachnin dit « C'est par la pluralité qu'advient la liberté. » Et vous en avez parlé, la liberté. C'est une invitation à toujours à se repositionner sur le chemin de la liberté. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis vous avez cité quelqu'un, j'en parle très souvent là, et si vous allez sur le site de l'Amitié judéo-chrétienne, vous retrouverez beaucoup de ses conférences. Il est mort l'année dernière, c'est Rafael Drahi. Alors certains prononcent Drahi, lui souhaitait Drahi, mais peu importe. Parce que c'est quelqu'un, justement, de l'interprétation. Et j'étais très heureux d'entendre son nom. L'interprétation, il disait toujours, l'interprétation ne doit pas viser à ne s'en tenir qu'à un seul angle. Il ne faut jamais... Alors là, on a tendance à dire « Ah, mais il faut arrondir les angles. » Mais non, il ne faut pas arrondir les angles. Au contraire, c'est toute la richesse. Il faut rechercher les angles et se percher sur chacun des angles pour voir quelle va être la perspective par rapport aux autres angles. Comme quand... Alors, il y a des montagnards, là. Quand on va en montagne, bien, quand on est sur un sommet, on va voir certaines choses qu'on ne verra pas. On ne verra pas de la même manière. C'est à ça que vous nous avez invité aussi. Et puis, une dernière chose, la vérité. Vous avez parlé de la vérité, vous nous avez mis en garde, c'est lié à l'interprétation. Et je voudrais citer le regretté, là aussi, Raphaël Picon, qui est un pasteur libéral protestant, qui disait « Refuser de se contenter de répéter une vérité toute faite et de renoncer à la réflexion, c'est aussi accepter d'évoluer à partir de pensées différentes. » Et ce soir, vous nous avez invités à évoluer en cheminant, vous avez utilisé le terme, en cheminant, nous appuyant sur des pensées qui se conjuguent les unes les autres de manière différente, et par là, en nous invitant à devenir sans cesse nous-mêmes différents, jamais figés, jamais sclérosés. Merci beaucoup.
Il est dit d'ailleurs que le livre peut être tout à fait muet, mais que c'est l'interprète qui donne vie au livre.
Oui.
Pour la Torah, c'est ça.
Lévinas disait, c'est les ailes pliées
qui se déploient.
C'est l'interprétation qui va se
déployer.
Je voulais savoir pour quelles raisons vous n'avez pas parlé de Lilith. Je trouve que c'est important qu'on en parle peu et qu'elle a une place importante justement par rapport au féminin tel qu'il est ou trouve, selon mon point de vue, sublimé ou sacralisé ou au contraire diabolisé. Cette part-là m'aurait intéressé. Une petite interrogation à ce sujet. D'autre part, je voulais aussi parler de la lettre Tzadé par rapport au vis-à-vis. Je trouve très intéressant ce que vous avez dit. La lettre Tzadé, excusez-moi, j'ai pas l'habitude de parler en micro. La lettre Tzadé, donc, j'ai entendu quelqu'un, un conférencier, qui disait que c'était le vis-à-vis, les deux yod en gros, qui symbolisent le couple qui se regarde mais aussi qui se protège. Voilà, je trouve ça joli. Partager avec vous.
Alors, à propos de Lilith, nous n'en avons pas parlé dans notre groupe de travail, donc je n'ai pas travaillé. C'est aussi quelque chose qui m'intéresse, mais je n'ai pas trouvé de texte suffisamment clair à ce sujet pour pouvoir en tirer quelque chose. Mais je trouve effectivement que c'est une question intéressante. Si vous avez des références à me donner, je me suis prête à les chercher. Mais il y a peu de choses.
Il y a aussi évidemment l'astrologie.
Oui.
De livres d'astrologues ont parlé de Lilith, la lune noire, mais bon, c'est autre chose. Et aussi dans le Talmud, on parle de Lilith. J'étais il y a une année dans une yeshiva en Israël, où justement la rabbine, qui était une femme, nous avait fait tout un cours sur Lilith, c'était passionnant. Et dernièrement, j'étais aussi à Grenoble, à une conférence du rabbin Sultan, qui nous a fait une conférence sur Lilith. Et combien de Lilith on arrive à Rava et combien justement l'histoire de la responsabilité et le lien entre la parole qui va advenir, et qu'il a fallu que justement il y ait cet acte de désir qui s'exprime dans l'envie qu'a Ève de rencontrer, de connaître, qui va permettre d'ouvrir à la parole et au sens de la responsabilité que malheureusement, la part masculine n'a pas assumé.
Je dis pas les hommes, je dis la part masculine.
Oui.
Est-ce que vous pourriez revenir sur les matériaux de construction de la tour de Babel? J'ai été beaucoup intrigué par votre remarque. Sur la brique et le bitume, qu'est-ce qui vous semble problématique dans le choix de ce matériau?
Ah, ce n'est pas à moi que ça semble problématique. Ce sont les textes qui ont fait des commentaires là-dessus. C'est qu'il s'agissait, au lieu de prendre des matériaux vivants, en quelque sorte. On fabrique quelque chose. Et que ce n'est pas ce qui vient de la nature, mais c'est quelque chose qui a été fabriqué. C'est comme ça que c'est interprété.
Mais, enfin, sauf à tomber dans la contradiction dans les termes, si on parle de matériaux, il ne peut pas y avoir de matériaux naturels, ça n'existe pas.
On parle de la pierre.
La glaise et la paille, ou quelque chose comme ça?
Non, c'est pas la paille. En fait, ce sont les briques à la place de la pierre, mais l'autre...
Bitume.
Voilà,
oui,
bitume. Donc ce sont pas des matériaux qui étaient ceux de la construction habituelle, qui étaient la pierre, on la trouve, la brique, on la fabrique. C'est pas le même...
Donc il faudrait préférer des matériaux naturels, c'est ça l'idée?
Non, je ne crois pas que ce soit ce registre-là. Je crois que c'est une métaphore pour dire qu'il y a quelque chose qui veut se construire de façon figée plutôt que d'aller au-devant de ce que l'on rencontre.
Je ne comprends pas très bien parce que si... Il me semble que construire, enfin, passer par la brique ou le bitume, qui sont effectivement des artefacts technologiques, etc., c'est produire du nouveau et ne pas répéter justement la nature.
Oui, simplement, là on parle de l'époque actuelle peut-être, et là il s'agit d'autre chose, il s'agit d'une métaphore à mon avis, qui dit que justement on ne va plus chercher ailleurs, on fabrique quelque chose qui va être toujours de l'identique, alors que quand on va chercher, on ne trouve jamais l'identique.
Voilà, si vous voulez, ce qui est peut-être derrière ma question, c'est que nous savons très bien que construire avec des matériaux naturels est extrêmement problématique. En Égypte, on construisait avec de l'argile, de la paille. On construisait société totalitaire, esclavagiste, à partir de matériaux naturels. Donc je ne crois pas que ce soit ce qui peut être problématique, à la limite, c'est la façon dont on utilise le matériau, mais pas le matériau en lui-même. C'est ça qui j'ai du mal à saisir la logique.
Est-ce que je peux me permettre un tout à fait autre, mais en même temps, qui est sur le plan humain? Là, en Égypte, c'était des esclaves. Donc, il n'y avait impossibilité de relation entre eux et de parole pendant qu'ils fabriquaient. Peut-être là, lorsqu'on fabrique artificiellement, ça devient mécanique et les hommes entre eux ne peuvent plus se parler. Lorsqu'ils vont chercher des matériaux naturels.
Il n'y a pas de matériaux naturels.
Non, enfin, des pierres. Lorsqu'ils vont chercher des pierres, ils vont les chercher ensemble. C'est une idée. C'est quelque chose qui me passe dans l'esprit, qui peut être. Et à ce moment-là, ils se rencontrent en allant chercher. Maintenant, en fabriquant le bitume, ils n'ont peut-être pas le temps de parler. Ils n'ont peut-être pas le temps d'élaborer. Une relation, ils sont à la chaîne, il n'y a plus d'humanité, parce que ce que vous nous montrez, cette histoire de Babel, c'est le manque d'humanité. Donc, en allant travailler des choses de la nature, la pierre ou autre, ils sont dans l'obligation, d'une relation.
Puis c'est surtout cette histoire de reproduction de l'identique.
Mais alors, autant pour la pierre, je pourrais vous rejoindre, parce que il me semble qu'il y a une logique, au moins, disons métaphorique ou lexicographique, parce que la pierre c'est Even, Even c'est Av, et Ben c'est le père et le fils de matériaux avec lesquels on peut construire la généalogie de l'histoire, etc.
Voilà.
Donc là-dessus, je veux bien saisir, mais j'ai du mal à pour les autres matériaux, où il faudrait peut-être analyser les mots, etc., qui y renvoient, mais j'ai du mal à saisir sur quoi on se fonde pour porter cette interprétation.
Voilà. C'est quoi le mot hébreu ?
D'autant plus que, si je ne me trompe pas, le bitume, on le trouve aussi à l'état naturel. Le bitume est naturel, donc j'ai du mal à saisir cette logique d'opposition de la nature. Non, tu
vois. Ce qui est surtout repéré, c'est la reproduction de l'identique par rapport aux différents. C'est surtout ça. Le mot hébreu, je ne m'en souviens pas, je ne l'ai pas noté.
C'est, voilà, ce qui relève de la reproduction de l'identique, de la répétition, c'est plus l'usage qui fait du matériau que le matériau lui-même, qui n'est pas en soi problématique, enfin, me semble-t-il.
Je vois une autre interprétation dans la différence entre le produit qui est fabriqué, du produit qui est trouvé, en se dégageant encore plus au niveau métaphore, au niveau abstrait. Et je vois ça dans notre façon aujourd'hui d'agir, par exemple dans la gestion de projet. On veut créer quelque chose, et bien d'avance, on va tout prévoir. Et en fait, on va s'enfermer. Le risque, c'est que l'on s'enferme en soi. On ne laisse plus place à l'événement, à ce qui vient à l'extérieur. Et je crois qu'à travers la Tour de Babel, c'est un peu ça, ce projet. C'est de trouver un truc qui nous enferme, qui nous protège, mais qui nous reste avec nous-mêmes. Mais on reste avec nous-mêmes. Donc, c'est le contraire du vis-à-vis. Et c'est le contraire de la vie. Et c'est ça qui est dangereux dans l'homme, c'est qu'il veut dominer, il veut contrôler, et il ne laisse plus place à l'imprévu. Et pour moi, qui suis dans la foi, l'imprévu de Dieu, à l'initiative de Dieu, ce n'est pas moi qui ai l'initiative.
Interprétation, c'est bien ça d'ailleurs, de pouvoir avoir sur une phrase, ou enfin, un petit peu plus sur un paragraphe, des interprétations diverses en fonction du ressenti de chacun. Et à ne pas oublier aussi que ces textes-là, malgré les millénaires qu'ils ont, ils sont actuels. Nous avons à les mettre dans notre actualité. Et c'est ce que nous faisons ici, mais c'est ce qui est fait aussi de toujours, et c'est ce que nos maîtres font.
Et moi ce que je trouve curieux...
Attendez, je m'écoute parce qu'on ne va pas encore.
Ce que je trouve curieux, c'est que c'est aujourd'hui encore une source d'émerveillement. Voilà. Bien plus que quelque chose de passager, alors que voilà, c'est un livre de la Genèse, et c'est une source pour moi d'émerveillement. Je retiens encore une phrase que j'ai entendue la semaine dernière pour ce soir. C'était Julien Green qui disait, en parlant de sa propre foi et de sa connaissance, qui disait qu'il en était encore à peine à avoir passé la douane. Je trouvais que c'était très très beau par rapport à toujours cet état d'émerveillement qui peut nous attendre, et de la parole, et puis de la connaissance, des mots.
Dans la construction de la Tour de Babel, il y a l'idée de parler les mêmes langues, de constituer un tout, mais aussi la Tour de Babel, elle veut rentrer dans le ciel, c'est-à-dire qu'il y a un désir de toute puissance.
Oui, je crois l'avoir dit.
Et donc,
totalitarisme, toute puissance.
En fait, ce qui se passe, c'est la castration, puisqu'elle est démontée.
C'est-à-dire qu'on voit bien le fonctionnement de repli sur soi et de vouloir se resserrer et se couper du reste quand il y a eu des choses qui ont fait très peur. Et puis, c'est quelque chose qui est contraire au mouvement de la vie. C'est en ce sens qu'on peut le comprendre. Et aussi cette idée de connaître, d'aller jusqu'aux cieux et de connaître l'origine qui n'est pas connaissable.
Je voudrais revenir à la transgression de d'Ève et je me demande, c'est une interprétation possible que je pose, Adam et Ève, c'est la création en fait du vis-à-vis. Et est-ce que dans cette transgression, ce n'est pas la faillite du vis-à-vis? Alors, ça se dit à deux niveaux. Au niveau de Ève, dans la mesure où elle n'est pas tournée vers Adam pour recevoir de lui une parole, elle est tournée à l'extérieur. Et dans cette relation entre deux, on s'aperçoit que Adam, il est totalement passif. On se demande ce qu'il fait. Quoi. Il ne fait que subir, il ne fait que faire ce qu'on lui demande. Et c'est assez curieux. Et il n'est pas tourné vis-à-vis à l'égard de Ève. Il aurait dû lui dire une parole.
Oui, absolument. Il n'y a pas eu de parole. Et c'est bien ce qui est mis en évidence, c'est qu'il n'y a pas eu une parole d'Adam à Ève à propos de cet interdit. Et c'est en cela qu'on peut dire que ils n'ont pas encore accédé à la responsabilité. Ils se trouvent là et bon, ils ne savent pas trop quoi faire d'eux-mêmes. Et c'est à partir du moment où Adam et Elohim intervient qu'on leur dit ce que vous faites, ça vous engage. C'est quelque chose d'une immaturité, on pourrait dire.
Comment sait-il que, historiquement, ensuite, ce texte de la Genèse a été l'objet de multiples interprétations misogynes? À partir de là, beaucoup de théologiens se sont permis de hiérarchiser l'homme est supérieur à la femme. Comment se fait-il? Comment expliquez-vous cette dérive et toutes ces mauvaises interprétations par rapport à ce texte?
Personnellement, je ne me permettrai pas d'expliquer, mais j'ai lu les livres de Delphine Horwiller qui situe bien les choses en disant que chaque époque a interprété la Bible, la Genèse, en fonction de la culture de l'époque et en fonction des modes de pensée de l'époque. Et je pense qu'il y a eu des interprétations qui ont varié au cours des siècles. Elle en parle très bien dans un livre récent. Hein. Non, c'est dans le suivant où elle parle plus de ça. Oui, je crois que c'est ça. Oui. Et je crois que nous sommes là aussi pour essayer d'interpréter en fonction de notre époque.
Je suis très intéressée par le rôle de la parole dans ce début de la Genèse, parce que finalement la création de Dieu, il dit que la lumière soit, la lumière est, la parole crée, et finalement c'est un thème majeur. Et je suis frappée aussi, mais là on en a parlé tout à l'heure, de l'absence de parole entre Ève et Adam. Et ensuite on n'entend pas non plus Adam parler à Caïn et Abel. Et vous avez dit une phrase, l'absence de parole crée la confusion. Et moi, j'aurais aimé que vous développiez ce thème-là, parce que ça me semble vraiment fondamental. Merci.
Bah, je crois que c'est quelque chose là qui est de notre quotidien. Si on ne dit pas les choses clairement, l'autre imagine tout ce qu'il veut. Et c'est bien sûr, il reste toujours du malentendu, mais on peut le limiter en s'exprimant. Là, je crois que c'est vraiment du quotidien. L'absence de parole fait que l'autre est laissé à son imaginaire. Chacun imagine ce que l'autre pense. Je ne sais pas si c'est ça que vous demandiez.
Pas exactement.
Non. De quoi vouliez-vous parler ?
Voilà, ma parole n'est pas assez claire. Je comprends bien, oui, au niveau quotidien, c'est tout à fait évident pour moi. Mais c'est plutôt au niveau de la lecture de la jeunesse que je me dis, il y a une telle insistance que nous avons sûrement à entendre des choses au-delà de notre petit quotidien qui est beaucoup plus facile à appréhender. Et plus j'ai beaucoup travaillé sur la jeunesse, et plus je lis, je me dis, mais la parole, il n'y a que ça. Donc c'est pour ça que j'attends d'autres éclaircissements pour m'aider.
Et peut-être que c'est une façon de montrer que quand elle manque, ça ne va pas. C'est peut-être aussi ça qui est dit au travers de cette histoire. Mais bon, on peut imaginer des choses.
Il a même tellement manqué que Ève dit pour la naissance de son premier fils qu'elle a fait un fils avec Dieu et même pas avec son mari. Donc là, il y a vraiment un manque de parole, donc un manque de relation qui se situe à un autre niveau que uniquement la procréation. Et ça, il est certain. Pourquoi, effectivement, la question est là, mais votre réponse est aussi très bonne. C'est le manque qui va nous faire chercher et nous faire parler. Peut-être aussi dans votre métier ou dans les métiers de quelques-uns d'entre nous ici, c'était d'aider les gens aussi à parler pour les faire sortir de leurs difficultés ou en tout cas les faire apprendre à se connaître. Mais là, effectivement, dans le texte du départ, il n'y a pas tant de paroles, oui. C'est après que ça viendra avec des varimes qui sont les paroles. Là, Dieu va beaucoup parler, mais c'est Dieu qui va parler, ou faire parler les hommes. C'est vrai que la question est intéressante par rapport à Adam. Est-ce que on lui a enlevé son côté féminin ? On dit que les femmes sont pas là. Mais est-ce que ce n'est pas les femmes, mais ce côté féminin qui est l'ouverture, qui est l'intuition aussi, peut-être la part de l'intuition. Dieu dit que les femmes, notamment au niveau des prières, n'ont pas besoin de prier, que nous avons cela en nous, les femmes, parce qu'en fait on a cette part effectivement de le féminin, de la bina, et qu'on n'a pas besoin, puisque Dieu nous a donné les attributs nécessaires pour comprendre.
N'entend pas.
Ah bon ?
Il faut rapprocher de la bouche.
Oh ben, il faut me le dire, excusez-moi.
C'est un défaut de tout le monde.
Oh, pauvre, oh, je suis désolée.
Particulièrement.
Mais, bon, mais.
J'ai très mal entendu madame.
Oh, je suis désolée, je Samuel.
Dis, je préfère le dire.
Mais tu as raison.
Malgré mes
appareils. Bon, alors, n'hésitez jamais à dire qu'on n'entend pas assez. Hein. N'hésitez pas, en plus, ce sont des micros très modernes, on peut les ouvrir, Jean-Marc, c'est très bien fait. On peut. Bon, là, c'est vrai, c'est mieux.
Mais
c'est mieux.
Norbert,
ah,
oui.
Super.
Super.
Bon, alors voilà, j'ai presque perdu le fil de ce que je disais. Alors voilà, peut-être. Adam a perdu son féminin. Peut-être qu'il ne savait même pas qu'il l'avait. Et il faut attendre la relation avec Ève et avec autres. Il dormait d'ailleurs. Il dormait, ça aussi c'est intéressant. Alors.
D'accord. En fait, c'est vrai que le micro, il faut presque le manger pour qu'on entende.
Alors, déjà, vous allez
manger.
Alors, moi, c'est difficile. C'est difficile de prendre la parole parce que je sais qu'il y a un paquet d'érudits ici et que je me sens vraiment une toute petite fille. Mais voilà, il se trouve que Dieu a écrit tout un tas de choses très intéressantes dont il fallait apprendre à manger. Et manger, si j'ai bien pris note, je l'ai marqué, hein. Unifié, ouais, manger tous les plaisirs de la vie. Et peut-être que dans les plaisirs de la vie qu'il avait créés, dont la lumière qui permettait de faire la différence entre l'ombre et la lumière, et il avait créé la parole. C'était un des plaisirs qu'il était offert aux hommes et aux femmes de parler. Et peut-être qu'on aurait pu passer un paquet de temps, enfin Adam et Ève auraient pu passer un paquet de temps à apprendre à manger et à profiter de toutes ces choses, belles choses qu'il avait mis à disposition. Et que peut-être en fait Adam et Ève, ils ont tout simplement mis la charrue avant les bœufs en mangeant ce fruit de l'arbre de la connaissance qui leur était interdit avant, alors qu'ils auraient dû commencer par tous les autres plaisirs.
Peut-être voilà. Aussi que dans la vie, on commence par manger avant de savoir parler.
Oui, mais on commence à parler assez tôt en fait.
Oui, mais il y a quand même quelques années avant qu'on parle.
Mais voilà, peut-être que la parole participe à l'unification entre l'homme et la femme.
Je voudrais signaler à tout le monde, Marek Alter, tout le monde connaît. Il vient de faire un livre qui s'appelle Ève. Et il affirme que c'est Ève qui s'occupe de tout. Et Adam ne fait que dormir. Et non seulement il ne parle pas à sa femme, mais je viens d'apprendre par madame que même pas à ses deux enfants, on ne trouve aucune trace de parole. Voilà. Je voudrais aussi ajouter que la confusion a été aussi créée par les traductions qui sont faites à côté de la plaque. Je vous donne un exemple. Il est écrit à Sarah Devarim. À Sarah 10. Devarim, parole. Comment c'est traduit? Comment c'est la traduction? Tout le monde traduit les 10 commandements. Voilà. J'ai eu pendant 5 ans des élèves d'hébreu. Mais au début, c'était uniquement pour enseigner les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Par la suite, une fois qu'on a fini l'alphabet, on a poursuivi, on a pu apprendre à lire, à écrire, mais pas à parler parce que je ne suis pas enseignant, j'ai voulu dépanner parce qu'on ne trouvait plus de professeurs d'hébreu. Et au bout de... j'avais 4 dames, et ces dames, je leur ai posé ce qui les motive pour apprendre l'hébreu, et que c'était pas facile. C'était pas aussi compliqué que le chinois, mais c'était quand même pas facile. Eh bien, chacune, prise à part, m'a répondu la même chose. C'est que j'ai lu beaucoup de traductions, et je ne suis satisfait d'aucune de ces traductions. Donc je cherche à revenir aux sources. Et le rabbin Getz de Genève, qu'on a fréquenté pendant plusieurs années, la fondation qu'il dirige s'appelle Racines et Sources. Mais puisqu'on parle de la femme, je voudrais ajouter quelque chose que j'ai apprise en m'occupant de l'introduction à la Kabbale. Seulement au niveau de la toute petite introduction, toute première. Dans cette première introduction, j'ai appris les séphirotes, les 10 séphirotes. Et dans ces séphirotes, il est expliqué en détail que l'intelligence appartient à la femme et l'homme n'a que l'organisme, il sait organiser, mais il n'a pas le même niveau d'intelligence que la femme. J'espère que ça fera plaisir à quelques-unes.
Merci Samuel, on le savait, mais...
Je vais dire deux choses. La première, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, qui est contredit par certains rabbins. En fait, c'est, pour eux, c'est une mauvaise lecture de dire qu'il y avait interdiction de manger. Simplement, il y avait interdiction pour le moment. Et il fallait patienter. Voilà, il fallait patienter. Comment ? Oui, c'est ça. Non, mais même cet arbre-là, voilà, c'est ça. Et en fait, le problème de donc quelqu'un disait, je me rappelle plus qui disait ça, le problème de la chute, c'est bon, il n'a pas lu Coëlette. Il y a un temps pour tout. Adam n'a pas lu Coëlette, chapitre 3. Mais on peut le dire autrement aussi. C'est lié, la chute est liée à une rage d'Adam, une rage d'Adam. Au sens où c'était la rage liée à l'impatience. C'est ça, prends ta brosse Adam, absolument. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça c'est pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Eliane et sur ce qu'a dit Samuel aussi. Par rapport à la femme et à l'intelligence, personnellement je ne suis pas tout à fait d'accord. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Non, mais je peux dire que je ne suis même pas d'accord du tout. Mais je ne vais pas dire l'inverse. Je ne suis pas d'accord. Oui, mais la Kabbale, j'ai décortiqué les 414 pages d'Alexandre Safran, y compris les notes. Donc, pour moi, c'est pas, il n'y a pas de dichotomie entre l'homme et la femme. Il y a la part masculine et la part féminine, et chaque être a une part masculine et une part féminine, plus ou moins prononcée, et vous savez très bien que, personnellement, et je vais vous montrer, je vous l'avais montré déjà la dernière fois à propos de l'hélicoptère, mais je vais vous le montrer encore une fois avec une autre citation. Donc pour moi, c'est pas homme versus femme, mais part féminine et part masculine, ce qui est tout à fait différent. Alors, quant à l'origine, bien sûr, les patriarches, je ne parle pas des patriarches de la Bible, mais les pères de l'Église, beaucoup avaient intérêt à, en fait, la femme au fourneau. Ça n'a pas beaucoup changé, tout au moins dans certaines communautés. Mais je vais vous lire, j'en ai pour quelques instants seulement. C'est inspiré par Marc Alain Watney, même si je l'ai un petit peu modifié, quand il est dit que les femmes ont un esprit léger. Certains prétendus maîtres, aveuglés par leur misogynie, traduisent léger par frivole ou inconsistant. Alors que la traduction juste, en l'occurrence, est subtile. Les femmes ont l'esprit léger parce que cet esprit est subtil, il est empreint de la beauté sublime d'un esprit éclairé.
Et bien sûr, ces belles paroles et cette joie-là, parce que finalement, ce féminin est joyeux, En tout cas, nous allons encore remercier notre conférencière. Je pense que ce débat pourrait être encore et encore mené, parce qu'effectivement, sur ce féminin, il y a beaucoup, beaucoup encore à dire. Merci d'être venu. Alors, je voudrais simplement vous parler très rapidement d'une petite revue